Bonjour à tous. Ce matin, j'aimerais reprendre un texte que j'aime beaucoup, que je reprends après plusieurs années, mais que je lis régulièrement, et un texte qui a particulièrement du sens en ce début d'année. Alors j'aimerais peut-être que... est-ce que Corinne a sa Bible ? Oui ? Tu peux prendre le passage de l'Évangile de Jean, chapitre 2, versets 18 à 25, et lire, mais à haute voix, pour que tout le monde puisse t'entendre. Mais ce sera affiché en même temps, si vous le souhaitez, mais j'aimerais bien qu'on l'entende. 2, 18 à 25. Amen. Et puis j'aimerais, est-ce que Michel et Chung, non, essaye de forcer un peu ta voix parce qu'on ne t'entend pas trop sinon, tu puisses lire l'évangile de Jean qui suit, chapitre 3, du verset 1 au verset 21. J'aime bien la voix de Michel, même s'il y a un accent breton très prononcé, mais j'aime bien quand il lit l'écriture au milieu de nous. Voilà, chapitre 3, verset 1. Et puis écoutez-le aussi tout en le lisant à l'écran.
Mais il eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit : Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit : en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit : comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? Jésus répondit : en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit : il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Nicodème lui dit : comment cela peut-il se faire ? Jésus lui répondit : tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu.
Amen. Merci Michel. Alors, vous avez bien compris ce matin que le partage de la parole tournera autour de cette rencontre de Jésus et de Nicodème. Un texte que l'on trouve dans l'Évangile de Jean à partir du chapitre 3. Cependant, et c'est toujours la difficulté lorsque nous lisons la Bible, nous avons nos regards qui sont, et nos traditions qui sont un petit peu là présentes pour nous faire passer à côté de choses essentielles de l'Écriture. On lit Nicodème, l'histoire de Nicodème à partir du moment où dans la nuit il s'approche de Jésus. Or, dans la pensée de l'apôtre Jean, dans la manière dont il écrit l'Évangile, ce récit commence bien avant. En fait, j'ai choisi de donner un titre, j'ai déposé d'ailleurs le titre, j'ai juste mis sur un post-it, hein, il n'est pas déposé à la SACEM, mais j'ai juste mis ce titre, et le titre de cette méditation, c'est Nicodème ou le passage de la religion à la relation. Nicodème ou le passage de la religion à la relation. Tout ce texte-là est porteur de, à la fois d'un message central très fort qui est naître de nouveau, et naître de nouveau, c'est éminemment un message qui parle d'une vie qui commence. Donc, et la vie, elle est faite de relations. D'abord à la mère avec le cordon ombilical qui relie l'un et l'autre, relation avec la famille, relation avec la société, et ce qui est souhaitable, relation avec Dieu. Donc, la nouvelle naissance, c'est une affaire de relation. Mais on s'aperçoit que dans ce texte-là, il y a plusieurs sous-thèmes qui sont extrêmement importants. Alors, qu'est-ce que dit le texte de l'Évangile de Jean? D'abord, il faut savoir qu'on est dans l'Évangile de Jean, c'est-à-dire l'Évangile qui est différent des trois autres. Matthieu, Marc, Luc, ce sont ce qu'on appelle des évangiles synoptiques qui vont raconter l'histoire de Jésus de manière très chronologique. On est parti sur l'idée à peu près admise par les exégètes que l'Évangile de Marc est le premier évangile écrit. On pourrait presque dire que c'est l'Évangile de Pierre, puisque Marc était son secrétaire pendant un temps et qu'il a consigné en fait le récit de tout ce que Pierre a pu connaître, entendre, vivre, etc. Et puis, Matthieu et Luc ont fait, eux aussi, sur le schéma de ce récit de Marc, eh bien, des rajouts de ce qu'ils avaient collecté, l'un parce qu'il était un des apôtres qui suivait Jésus, et l'autre parce qu'il était à côté de Paul, et qu'il est dit qu'il est allé jusqu'à aller interroger Marie, c'est-à-dire tous ceux qui avaient été témoins de ce récit, de cette bonne nouvelle. Puis Jean, lui, en fait, il s'exonère de cette règle du récit chronologique, et c'est d'ailleurs très surprenant, puisque le récit, on le verra, de Nicodème suit, est après, au chapitre 2, le récit du temple où Jésus chasse les marchands. Dans les autres évangiles, il est à la fin, ce récit. Donc, on s'aperçoit que dans la logique de l'apôtre Jean, ce qu'il veut dire, c'est autre chose et d'une autre manière. Il est à Patmos, suppose-t-on, c'est-à-dire à la fin de sa vie, de son ministère, et il fait un retour en arrière et il a une idée de redire l'évangile, mais de manière beaucoup plus spirituel que factuel. C'est-à-dire, ce n'est pas les faits qui l'intéressent, l'enchaînement des faits, et puis il s'est passé ci, puis il est allé là, etc. Non, c'est de reprendre les faits, mais de leur donner aussi une cohérence en termes de sens. Et là, dans ce texte, on est au début de l'évangile de Jean, chapitre 3, et on est déjà, je dirais, à la fête de Pâques, quand Jésus se présente devant Jérusalem, et puis les vendeurs qui sont chassés du temple, à un moment du ministère de Jésus où il n'est plus celui qui est né pour, remplir les promesses de Dieu, il vient à ce moment-là, au début de l'évangile de Jean, comme le Messie. C'est pour ça qu'on le verra, quand il chasse les vendeurs du temple, il est en train de s'occuper des affaires de son père. Et s'il s'occupe des affaires de son père, ce n'est pas au même titre que quand il est venu à 12 ans pour enseigner ou à d'autres moments pour lire des textes d'Ésaïe. Il y vient face à Jérusalem, dans Jérusalem, pour dire « Je suis celui qui a été promis ». Et puis, il y a des thématiques qu'on va retrouver à la fois au début du récit de Nicodème. Il vient de nuit. Est-ce que vous avez noté que le texte se termine par mais que celui qui pratique la vérité vient à la lumière afin qu'il soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. C'est-à-dire qu'il y a la nuit au début du récit, il y a la lumière à la fin. C'est une piste de lecture essentielle. Nicodème est dans les ténèbres, dans la nuit, pas simplement la nuit physique, il est dans la nuit concrète, y compris en lui-même. Et à la fin, il est dans la lumière. Il y a cette thématique-là. Pour l'évangile de Jean, c'est à Jérusalem et dans le temple que devait s'ouvrir le ministère du Messie. Ça nous renvoie à un texte qui se trouve dans notre Bible. Il est bien placé, ce texte. C'est un texte du prophète Malachie. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament dans notre Bible. Je vais être honnête avec vous. Ce n'est pas le cas dans la Bible hébraïque, judaïque. Les livres sont totalement rangés dans un autre ordre. Mais là, pour nous, c'est bien pratique parce que Malachie, le prophète, dit ceci. « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. » C'est une prophétie messianique. C'est fabuleux que le dernier chapitre du prophète dans notre Bible, je le dis bien, de Malachie, annonce la venue. Et juste derrière, vous tournez la page dans votre Bible et vous avez la généalogie de Christ en Matthieu, les évangiles, etc. Et voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Ça, c'est une parole de Dieu. Voilà, j'ai un messager qui va venir, c'est le Messie. C'était clair pour tous les Juifs. Il va venir, ce messager. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et quelques versets plus loin, il purifiera les fils de Lévi. C'est-à-dire, il va purifier le temple et ceux qui y servent. Rappel de ce que Jésus fait quand il rentre dans le temple. Là, il rentre comme le Messie. Il rentre dans la maison de son Père. Et il purifie une maison qui était consacrée à la vente des animaux pour les sacrifices, au change. Vous savez que l'argent qui circulait, c'était de l'argent grec, romain et puis d'autres pièces. Et il fallait des pièces qui soient des pièces du temple. Donc, il fallait faire du change. Donc, il y avait du troc, il y avait du commerce, etc. Jésus, quand il était au début de son ministère, ce n'est pas quelque chose qui lui posait problème, parce qu'il venait pour annoncer la bonne nouvelle et le salut. Mais quand il rentre à la fin, et qu'il vient pour proclamer qu'il est le Messie, et qu'il rentre dans ce temple, là, il rentre dans le temple, dans la maison de son père, et il fait le ménage, parce que ces choses-là ne sont pas dignes du culte qui doit être rendu à Dieu. Quand il rentre dans le temple, c'est comme fils de celui auquel ce temple est consacré. Il y apporte de nouveaux droits comme de nouveaux devoirs, une nouvelle relation. À la suite de cet épisode, les Juifs religieux, et je crois qu'il faut vraiment parler d'une confrontation entre la force et la puissance de la religion en opposition avec la relation au Messie, à l'envoyé du Père qui se joue là. Les juifs religieux demandent un signe miraculeux. Vous l'avez lu, hein. Fais-nous un signe. Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte, c'est-à-dire pour te positionner comme cela. Allez, fais-nous un miracle. Il pose le principe que l'accueil, c'est pharisien, que l'accueil de Christ comme Messie ne peut se faire que sur la base d'actions miraculeuses. Et moi, ça me fait penser à tous ces chrétiens qui disent « Oui, moi, je veux voir Jésus agir. Moi, il me faut un miracle pour que je puisse croire encore davantage. Moi, si Dieu agit de telle ou telle manière, voilà, ma foi va grandir, l'Église va grandir, etc. » Et on a accès, ces 30, 40 dernières années dans le monde évangélique, beaucoup de choses sur la base des miracles ou des dons spirituels, au lieu de les poser sur la question de quelle est ma relation avec Jésus. Et la recherche permanente des choses miraculeuses, des signes, etc., c'est quelque chose qui n'est pas de la volonté de Dieu. Ça peut faire partie de la vie, qu'il y ait une parole prophétique, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela, mais ce n'est pas cela qui construit ma foi. C'est ma relation avec celui qui est fils de Dieu. Rappelez-vous que Jean nous raconte le récit des noces de Cana juste avant. C'est très étrange, la construction du livre de Jean. Moi, l'évangile de Jean, c'est un évangile que j'apprécie beaucoup parce qu'il ne suit pas une logique chronologique. Il faut trouver le fil de la pensée de l'évangéliste et de Dieu au travers de cet évangile. Il faut toujours le chercher parce que ça, c'est tellement plus facile de dire aujourd'hui il est allé là, puis il a fait ça, puis demain le lendemain il est allé là, puis il a fait ça, puis le surlendemain. Non, là chez Jean, et juste avant cet épisode des miracles, il y a les noces de Cana. Là où Jésus commence son ministère. C'est pour ça que les constructions, l'évangile de Jean est assez particulière. Et là, s'il y a bien un miracle qui est admis, c'est que c'est le commencement du ministère de Jésus. Et juste après ces noces de Cana, Jean trouve intéressant de renvoyer ces religieux qui disent « Montre-nous des miracles !» On s'aperçoit que finalement, pour eux, le miracle des noces de Cana, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un autre miracle. Et puis, un autre miracle, certainement, ensuite. Le cadre fixé par la religion pendant la foi, c'est une succession de miracles. Alors, les autorités chargées de la police du temple, parce que c'est ça dont il s'agit, les Juifs, au verset 18, manifestent leur hostilité à Jésus et le mépris qui les caractérise. Ce n'est pas vraiment Jésus, le Messie, qu'ils accueillent. C'est bon, hein, vas-y, montre-nous ce que tu es capable de faire. Hein. Et on retrouve ce mépris-là au premier chapitre de l'évangile de Jean, quand ces mêmes Juifs s'adressent à Jean-Baptiste et lui disent « Alors, et toi, qui es-tu ? Toi, qui es-tu ? » Et puis Jean-Baptiste va répondre avec sagesse en disant « Oh, mais moi, je ne suis pas le Messie. Hein. Moi, je suis celui qui est avant. Je prépare le chemin. » Mais ils font la même chose, ces Juifs. Avec Jésus. Toi, qui es-tu ? Allez, fais-nous un miracle qu'on puisse savoir si tu es quelqu'un qui est intéressant. Ils cherchent un signe extérieur, en grec un séméion, un signe extérieur pour légitimer un acte qui, en fait, s'adresse à la conscience. Ce que Jésus veut, y compris chez nous, c'est non pas nous éblouir pour qu'on puisse être convaincu, c'est que notre conscience soit touchée. Que notre être intérieur soit touché par le Saint-Esprit et que Christ se révèle en nous. Il pourra faire autant de miracles qu'il le désire si le cœur de l'homme n'est pas prêt à rencontrer le Christ Jésus. Tous les signes sont inutiles. J'ai été sollicité pour aller dans une église dialoguer parce que le conseil est opposé ou est en difficulté sur l'accueil du ministère féminin. Je le dis comme, là aussi, comment je vais faire pour rencontrer les responsables d'église ? Et je pensais à ça et je disais, en fait, je ne dois absolument pas me présenter en disant « Je suis là pour vous convaincre ». J'ai bien pensé à un truc, faire un signe fort pour qu'il soit convaincu. Vous savez lequel ? Non ? Ben, y aller avec ma femme. Je ne sais même pas pourquoi vous y pensez pas. Je dis, voilà, regardez, j'ai un signe. C'est mon signe à moi, le ministère féminin. Mais en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Si nous ne sommes pas ouverts avec un cœur préparé, tous les signes apportés, aussi bons qu'ils soient, aussi beaux qu'ils soient, aussi puissants qu'ils soient, tous ces signes-là n'auront aucun effet. Après être sorti de l'esclavage de l'Égypte, avoir vu la mer Rouge ouverte, moi c'est un signe qui m'a beaucoup marqué parce que quand j'étais en cinquième, notre professeur de, j'étais à l'église depuis quelques mois, notre professeur d'histoire, je crois, nous a dit faites une représentation graphique de quelque chose de surprenant qui s'est produit dans l'histoire. Et moi j'ai dit, qu'est-ce qui était surprenant? Ouvrir la mer Rouge, quand même, c'est pas tous les jours. Alors, on devait utiliser des films de cinéma. Moi, j'ai choisi les 10 commandements et la scène où la mer Rouge s'ouvre. Et j'ai expliqué comment, au cinéma, on avait réussi, avec des jeux de miroirs, etc., deux projections différentes, à faire qu'une mer soit ouverte avec de l'eau de chaque côté et le peuple qui traverse au milieu. Et je trouvais que c'était... C'était beau. Mais vous savez que le peuple d'Israël, quand il a vu ce miracle-là, en fait, quelques mois après, il disait « Ouais, quand même, l'Égypte, c'était pas mal. Hein. Là, Moïse, tu nous emmènes dans le désert, on a des problèmes, il fait chaud. Nous, on dirait il fait froid. Et puis, la vie n'est pas facile, etc. Retournons donc en Égypte. T'as pas vu la mer ouverte devant toi? Si. T'es pas convaincu de la puissance de Dieu? Bah, pas plus que ça. » Et parfois, dans notre vie de chrétien, nous sommes pareils. Nous oublions les grâces de Dieu, la puissance de Dieu, les mers ouvertes devant nous. Et on dit à Dieu, mais tu sais, c'est difficile aujourd'hui. Comment ça se fait? Je ne comprends pas, etc. Finalement, est-ce que j'aurais dû m'engager? Est-ce que j'aurais dû prendre cette décision de te suivre Jésus, etc. Et on est là à se plaindre en oubliant la sortie d'Égypte. La croix plantée à Golgotha, le salut qui nous a été accordé. Alors, je trouvais que ce texte-là est intéressant parce que dans Jean 2, 18, 25, il est dit que Jésus, discutant avec ses pharisiens qui demandent un signe, il dit, ben voilà, il va y avoir quelque chose qui va se produire. Et il, regardant le temple au milieu duquel il est, il dit, ben voilà, détruisez ce temple et en 3 jours, je reviendrai. Et puis, quand il dit cela, il parle de quoi, à votre avis? De sa résurrection. C'est ça? Vous êtes d'accord? Ouais. En fait, il parle de deux choses. Il parle de sa résurrection, bien sûr. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Mais il parle aussi du temple de Jérusalem. En même temps, il parle. Et les Juifs qui sont là, les pharisiens, n'entendent que ce projet de détruisez ce temple-là et en 3 jours, je le relèverai. Et ils disent, mais attends, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi en 3 jours, mais il parlait du temple de son corps. Les disciples, eux, ont compris, mais pas tout de suite. Ils ont compris quand Jésus est ressuscité. Il est dit qu'ils se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole. C'est là la différence avec les pharisiens. Ils ont cru, non pas au miracle de la résurrection, ils ont cru dans la parole de Dieu qui s'était accomplie. Et dans notre vie, l'enjeu est du même sort. Du même genre. La question n'est pas de s'arrêter sur le miracle qui s'est accompli, les faits qui ont été extraordinaires, aussi extraordinaires soient-ils, mais en ce que la parole de Dieu s'est révélée comme vraie pour moi. Et vous avez certainement vécu des expériences, les uns et les autres, où vous avez vécu des miracles dans votre vie. Ne vous arrêtez pas au miracle qui s'est accompli. Arrêtez-vous à ce qu'il confirme de la parole de Dieu pour vous et pour votre foi. Les disciples, quand il y a eu la résurrection, Ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Si Dieu te dit dans la parole, je suis fidèle, qu'il y a un miracle qui s'accomplit, alors ne t'extasie pas et ne porte pas ce miracle comme quelque chose de merveilleux. Regardez ce que Dieu a fait. Regardez, regardez. Non. Dites-vous que la parole de Dieu, sa fidélité dont il parle, s'est accomplie dans votre vie. Dites-vous que son amour pour vous s'est manifesté, a été réalisé par ce miracle-là, mais que cette parole de Dieu pour vous est vraie. Alléluia. Plusieurs, pendant que Jésus était à Jérusalem, c'était la fête de Pâques. Moi, j'aime la manière, là aussi, il y a plein d'indicateurs semés par Jean. C'était la fête de Pâques. On se dit, mais alors, laquelle? Celle de la faim? Parce que, a priori, l'histoire des vendeurs chassés du temple, c'est au moment où ils rentrent à Jérusalem pour la crucifixion. On dit, au début du... Jean, tu devrais mettre un peu d'ordre dans ton évangile. Hein, on est au début de ton évangile et tu nous parles déjà de la fin. Mais il y a quelque chose qui est très intéressant dans le fil conducteur de la pensée de Jean. C'était la fête de Pâques. Or, Pâques en hébreu, Pessah, c'est le passage. Le passage de l'ombre de la mort, mais aussi le passage de la vie pour ceux qui sont protégés par le sang de l'agneau. Et en fait, quand il est dit que Jésus était à Jérusalem à la fête de la Pâque, on est à un moment clé d'un passage d'une religion à une relation. Ce que Pâque veut dire, ce que Dieu dit à l'être humain à ce moment-là, c'est tu es religieux, tu as circonscrit toute ta pratique dans il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et alors là, les pharisiens, sur les trois groupes, importants du judaïsme, c'était ceux qui étaient, mais alors dans la... Tout était codifié, réglé comme du papier à musique. Ouais. Et Jésus vient en disant, je passe. Et ce passage, ce Pessah, c'est le passage de la religion à la relation. Et frères et sœurs, et là j'utilise ces mots à bon escient, j'utilise rarement ce mot frères et sœurs, ça fait un peu pompeux et très paternaliste. Mais frères et sœurs, parce que nous sommes dans le même bateau, dans le même salut, nous sommes aussi concernés par cette question de passer de la religion à la relation. Il y a dans notre manière de voir, de concevoir le salut, de vivre l'évangile, des choses qui se posent aussi de manière très religieuse. Un exemple. Michel ne va pas être content. Le culte commence à 10 heures. Normalement, vous êtes présent dans l'église à 10 heures. Ça, j'en vois une qui rigole, qui se dit, tiens, c'est pour moi. Non. C'est bien d'y être. Mais si c'est pour vous une règle, ça devient une religiosité. Il faut que je sois à l'église le dimanche à 10 heures pile, etc. Soyez présents quand le Seigneur vous demande d'y être. Mais ne vous fabriquez pas, ne nous fabriquons pas des règles religieuses qui disent voilà ce que c'est que d'être un bon croyant ou d'être un bon chrétien. C'est mieux quand on est nombreux, quand on commence le culte pour chanter. Mais quand on dit souvent avec Michel et puis l'équipe pastorale, on a renoncé à être intervenant ou interventionniste sur cette question-là. Ce n'est pas parce que vous nous avez eu à l'usure. Non. C'est parce qu'en fait, on se rend compte que c'est bien et que ceux qui ont à cœur d'être présents à ce moment-là le sont. À vous de voir qu'est-ce qui est bon pour vous. Mais que ce qui dicte votre raison de vivre votre foi, votre manière de vivre la foi, ne soit pas de l'ordre des obligations et des règles. On arrive à ce point où ceux qui étaient là disent « fais des miracles », puis les disciples sont là, comprennent des choses. Et puis, il y a un petit récit. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom. Et là, vous dites « bah non ». « Bah non ». Je dis la suite. Plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Et on voit bien que, On se dit, mais c'est bien ça, s'ils ont cru en Jésus parce qu'il faisait miracle. Sauf que ce qui suit, c'est, mais Jésus, je t'ai eu Daniel, hein mais Jésus ne se fiait pas à eux. Il ne croyait pas, en grec, c'est, il ne croyait pas en eux. Il ne croyait pas en leur foi. Il est dur quand même. Il dit quand même qu'ils ont cru en son nom parce qu'il faisait des miracles. Il ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Ça veut dire que ce qui était dans ces hommes-là, il y avait des femmes, hein. Ça veut dire les êtres humains, là, hein. On ne va pas circonscrire ça qu'aux hommes, hein. Mais il savait ce qu'il y avait en eux. Et que reposer sa foi sur ce qui étonne, ah, qu'est-ce que tu as ? Ça commence comme ça avec l'entretien entre Jésus et Nicodème. Oh, on sait que t'es un docteur de la loi génial, tu fais des choses extraordinaires, hein. Et les croyants qui sont là disent la même chose. Et on a parfois des chrétiens qui ne vivent que de cette manière-là. Oh, Jésus, il fait des belles choses. Ah, oh, il est formidable. Et puis, il va faire encore. Venez à l'église, vous allez voir. Moi, ça me fait un peu peur parce que ça me met la pression. Je dis bon. Non. Il se méfiait d'eux parce qu'il savait que leur foi reposait sur de mauvais fondements. On n'est pas sur de la religion. J'ai entendu quelqu'un me parler ça aussi. Ou parfois, on dit, voilà, moi, je suis de la religion catholique, protestante, etc. Quelle est ta relation avec Dieu ? Là où tu vis ta foi, c'est là l'essentiel. Aujourd'hui, maintenant, quelle est ta relation ? Et il est dit que Jésus s'est méfié de cela. Je me dis, waouh, Seigneur, est-ce qu'il y a des moments où ma foi ne repose pas sur ma relation avec toi, mais sur des choses comme ça qui sont factuelles ? T'as fait ça, oh, t'as été chouette là, oh, etc. Est-ce qu'il y a plutôt sur la relation ? Alors je me disais, tiens, on est bien sur un récit qui propose un continuum entre ces récits-là de Jean chapitre 2, versets 18 à 25, et le récit de Nicodème. Pourquoi je dis que c'est un récit qui se poursuit ? Parce qu'il y a un tout petit mot qui est présent dans le texte entre ces récits-là et celui de Nicodème. C'est quoi ce petit mot ? Non. J'ai pas entendu. Ah oui, or, oui, parce que c'est une autre traduction, toi. Voilà. Mais. Vous savez, ces fameuses coordinations entre deux textes. Lorsqu'on termine, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme, cette rencontre entre Jésus et des personnes, y compris des religieux, qui essayent de l'embarquer, de débattre avec lui, etc. Le chapitre 3 commence par « mais ». Mais. Donc, s'il y a un « mais », ça veut dire que ce texte qui vient est rattaché au suivant. Et c'est dans la pensée de Jean. « Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. » On se dit « tiens, le « mais », oui, ça veut dire que il y a eu ce récit-là de religieux, etc. Mais il y eut un homme, et en plus, il est pharisien. Donc on se dit, ça y est, là, on va individualiser le problème des pharisiens autour de la personne de Nicodème. Et en fait, pas du tout. Nicodème va avoir dans sa démarche, je dirais, quelque chose qui va toucher le cœur de Jésus et qui va lui montrer que Nicodème est totalement en porte-à-faux avec les groupes qui ont précédé au chapitre 2. Alors, Nicodème, je trouve que c'est sympa, son nom en grec, c'est victorieux du peuple ou victoire du peuple. Il y en a qui ont des noms comme ça, victoire de. On dit ça, ils ont donné ce nom-là à leur fille, à leur enfant. C'est un beau nom, c'est merveilleux. Et en fait, le nom de Nicodème était un prénom grec, mais assez courant dans le judaïsme. Et on s'aperçoit que ce Nicodème, c'est un membre pharisien. Alors, pharisien, on va voir juste quelques petits détails, mais qui était membre du Sanhédrin, c'est-à-dire un des chefs. Il est dit, il était chef des Juifs, c'est-à-dire un des responsables à Jérusalem de la communauté juive. Et Jésus va lui expliquer que malgré tout ce qu'il a comme certitude, il lui manque quelque chose, c'est de naître de nouveau. Là aussi, on s'aperçoit que ce que propose Jean dans la lecture de ces passages, c'est de sortir d'un aspect religieux qui est aussi celui de Nicodème et qui est aussi le nôtre. Aujourd'hui, ce texte s'adresse à nous. Nous sommes les uns et les autres très tentés par le pharisaïsme, c'est-à-dire de codifier notre foi, de mettre des petites règles ici, là, et dire être un bon chrétien, c'est ceci, c'est cela. Hein? Est-ce que je peux dire si quelqu'un est sauvé ou pas? Ah ben, s'il est catholique, c'est sûr que... Non, je ne peux pas. Il y a des hommes et des femmes qui sont dans le salut, quel que soit le nom et l'étiquette de l'Église qui est apposée sur la porte. Eh bien, c'est cette pensée-là que Dieu, par Jésus, communique à Nicodème. Et en fait, les membres du Sanhédrin accusent Jésus d'imposture. Et au chapitre 7 de Jean, Nicodème leur demande si la loi les autorise à condamner quelqu'un sans les avoir entendus. C'est-à-dire qu'on le retrouve jusqu'à la crucifixion, ce fameux Nicodème. Et il apporte environ 100 livres romaines de myrrhe et d'aloès pour le moment de l'ensevelissement du corps de Jésus. Donc, c'est quelqu'un qui a fait tout un cheminement. On le voit de manière factuelle, mais il s'est passé quelque chose au moment de cette nuit. Il y a, dans le discours de Jésus, oui, mais si détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relève. Et ça fait 46 ans qu'on a mis 46 ans pour le construire, etc., etc. Lorsque Jésus parlait du temple et de lui, il parle bien des deux choses. Pratiquement, on va dire, 25 ans après, en l'an 70, le général romain Titus vient à Jérusalem et du fait des rébellions juives, il rase le temple. Il le rase. Et la ville de Jérusalem est même interdite aux juifs. Vous imaginez? Je ne sais pas s'il restait quelques pharisiens qui s'étaient entretenus avec Jésus, mais ils ont dû peut-être se remémorer cette discussion en disant... Si ce temple est détruit, et quand ils ont vu le temple rasé, ils se sont dit, comment c'est possible? Comment c'est possible? En fait, lorsque le temple est rasé, les Juifs sont devant une situation catastrophique. On ne peut plus vivre notre foi. Tout reposait sur les sacrifices d'animaux, tout reposait sur le pardon qu'on avait quand on sacrifiait un agneau, etc. etc. Il n'y a plus de temple. Alors, après la destruction du temple, les religieux juifs ont dit ben, il ne nous reste plus qu'une chose, la Torah. Donc, notre temple, désormais, ce sera la Torah. Qu'on soit en exil, qu'on soit en Israël, c'est la parole qui deviendra le lieu où on se retrouvera. Et ils ont commencé à développer des écoles rabbiniques pour pouvoir étudier la Torah. Et notamment, il va y avoir la naissance de la Mishnah, qui est un ouvrage où tout ce qui a été consigné de la Torah orale, c'est-à-dire comment on explique la Bible et ça, va être consigné dans un écrit qui s'appelle la Mishnah. Et la Mishnah va elle-même faire l'objet d'un commentaire, deux commentaires, un qui est sur la région de Jérusalem et de Judée, et un autre commentaire qui est plutôt un commentaire de l'exil, des Juifs qui sont au-delà, et ça va être le Talmud de Jérusalem ou le Talmud de Babylone. Et ce qui est amusant, c'est que ce commentaire du commentaire, en fait, va reprendre des choses qui ont été dites par rapport à la loi, etc. Et dans le Talmud de Jérusalem, qui a été écrit entre le 2e et le 4e siècle, le Talmud de Jérusalem fait mention, à plusieurs reprises, d'un personnage dont le nom est Nakdimon, et ce qui veut dire, en fait, Nicodème, Nakdimon, qui avait été surnommé Bounaï, et qui est présenté dans le Talmud de Jérusalem comme un disciple de Jésus. Et il était surnommé Bounaï. Et c'était un des 4 plus riches habitants de Jérusalem. Moi, je trouve génial que des sources extérieures disent, oui, il y avait un certain Nicodème, bon, Nagdimon, qui avait ce qu'on appelait Bounaï, c'était un des plus riches, et c'était un disciple de ce Jésus en question. Là, c'est pas la Bible qui dit simplement, mais les écrits, etc., y compris juifs, qui parlent de cela. Et quand on lit ce passage de l'évangile de Jean, il est dit, il était un homme d'entre les pharisiens, Perushim, c'est-à-dire ceux qui sont séparés. Parce que ceux qui sont séparés, c'est pas n'importe qui. Hein. On est les meilleurs des meilleurs. Ça me fait penser à Men in Black, ça n'a rien à voir. Mais pourquoi tu veux t'engager? Parce qu'on est les meilleurs des meilleurs, chef. Ben, les pharisiens, c'était ça. On est les meilleurs des meilleurs, les plus saints, ceux qui ne font pas d'erreurs, etc. On connaît et on maîtrise les choses. Ah, dans la religion, on est des as. Hein. Ouais. Et il y avait un homme d'entre les pharisiens. On se dit, mais il est mal barré, celui-là. Et il vient de nuit. Moi, j'aime bien cette notion-là. Il vient de nuit, c'est pas simplement... Alors, beaucoup de commentateurs disent, il vient de nuit parce que membre du Sanhédrin, il veut pas montrer qu'il est intéressé par le message de Jésus. Sauf que, dans la pensée de Jean, c'est quand même pas un hasard si le texte qui commence se termine par le fait qu'il vient de nuit, mais que le texte termine, celui qui pratique la vérité vient à la lumière. On a à la fois la notion que Jésus est la lumière, mais c'est aussi que tout à coup, Nicodème, il passe de la nuit à la lumière. Il a l'éclairage intégré. Ouais. Oui, je dis ça parce que je me rappelle d'un commentaire que j'avais fait en 2015-14. Je le dis souvent, cette histoire-là, il y a un habitant de Vannes qui était complètement déchiré. Complètement. Et il a décidé d'aller vers Quimper. Et puis, tous ceux qui le croisaient ont appelé la gendarmerie en disant, on a un problème, il y a quelqu'un, il fait zigzag sur la 4 voies. Et les polices sont arrivées, et ils l'ont arrêté. Ils se sont rendus compte que le gars était tellement alcoolisé qu'en sortant du parking, il avait mis la marche avant au lieu de la marche arrière et qu'il a détruit ses deux phares de devant avec sa voiture. Donc, il a repris la 4 voies quand même en pleine nuit. Et puis, ouais, il était intelligent quand même, alcoolisé mais intelligent. Et donc, comme il avait le téléphone, il avait mis le téléphone par la fenêtre pour voir la route. Donc, évidemment, ça ne marchait pas très très bien. Hein. Mais je me disais, c'est une image de ceux qui n'ont pas l'éclairage intégré. Et vous savez, beaucoup d'hommes, de femmes, de chrétiens même, ne sont pas éclairés par l'Esprit Saint. Et ils prennent les règles religieuses comme le téléphone pour éclairer la route, du moment que j'y vois un petit peu. Mais ce que Dieu veut, c'est ce qui est dit à la fin de ce passage, c'est qu'il soit rempli de la lumière de Christ et qu'il puisse voir où ils vont. Alors, il était pharisien. On se dit, bon, il a déjà un mauvais karma, on dirait, dans le monde, mais un mauvais départ. Les pharisiens croyaient à plusieurs choses. Ils croyaient notamment à la prédestination, qui est un concept théologique. Je ne vais pas vous assommer avec, mais c'est quand même un concept théologique assez particulier, la prédestination. Ça veut dire que Dieu aurait choisi de toute éternité et secrètement ceux qui seront graciés, qui auront la vie éternelle, et ceux qui ne l'auront pas. C'est ce qu'on appelle la double prédestination. Moi, quand j'ai découvert ça dans nos études, j'étais assez dubitatif, d'autant plus que ça, c'est la pensée des pharisiens. Mais c'est aussi un concept qui a été repris par Martin Luther et par Calvin. Alors, aujourd'hui, les protestants sont assez gênés aux entournures par rapport à ça. Dans l'église protestante actuelle, il y a encore ce principe qui... Moi, ça m'a toujours mis mal à l'aise, me dire, tiens, alors... En fait, quoi que je fasse, c'est déjà décidé en amont. Donc ça met plein de choses. Ça veut dire, quel est le poids de mon libre arbitre, c'est-à-dire de mes décisions? Je mets devant toi le chemin de la vie et de la mort, dit Dieu dans l'Ancien Testament. Bah, attends, Seigneur, tu mets devant moi le chemin de la vie et de la mort, mais si c'est déjà décidé d'avance, qu'est-ce que je fais? Si en fait, même mon choix... Choisis la vie. Ben oui, mais si j'ai choisi et que je ne suis pas dans la liste, de ceux qui sont... Donc la prédestination, c'était la croyance de Nicodème. Or là, ce qui bouleverse sa vie, c'est qu'il y a quelqu'un qui est là et qui dit « Tu peux naître de nouveau. Tu peux avoir une vie nouvelle. » Et c'est ce qu'il nous dit à nous aussi maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de joué. Tout dépend de ce que tu choisis de Dieu dans ta vie maintenant. Et non pas parce que tu serais prédestiné, tu as la chance d'être sur la liste avant de faire ce choix. Non, c'est aussi la manière dont tu te saisis de la parole de vie et que tu construis une relation avec Dieu maintenant. Et que tu ne restes pas bloqué sur des croyances religieuses de ce que tu serais ou ne serais pas, de ce que Dieu voudrait pour toi ou ne voudrait pas. La vie nouvelle est possible en toi. Il y avait parmi les pharisiens un homme nommé Nicodème. Eh bien, j'ai envie de dire qu'il vint de nuit pour lui dire « Rabbi, nous savons ». Et vous voyez bien qu'on est devant un religieux. Il dit pas « Michel, nous savons à plusieurs que tu pourrais faire quelque chose ». Non, le « nous », c'est une manière de se dédouaner et de ne pas s'impliquer par le jeu. La règle du jeu est primordiale dans notre relation à Dieu. Ce n'est pas les autres qui décident pour moi, ce n'est pas je ne peux pas m'abriter, mais Nicodème le fait. « Oh, tu sais, Jésus, nous savons que tu es un docteur. » Une manière de caresser Jésus dans le sens du poil en se disant « Bon, après, je vais passer aux choses sérieuses. » Non, non. Nicodème utilise le « nous », il est dans un registre commun, pluriel. Il n'est pas encore dans le jeu. Et sans doute fait-il également cette démarche auprès de Jésus au nom d'autres pharisiens. Il y a peut-être d'autres qui vont dire « Écoute, tu ne pourrais pas aller le voir et puis causer avec lui pour savoir s'il y a peut-être un intérêt ou s'il y a peut-être quelque chose de nouveau à saisir. » Le « nous », c'est une protection pour ne pas s'impliquer. Dieu te veut au niveau du jeu. Du genou peut-être, mais du jeu et pas du « nous ». Il te veut là, devant lui. Au Jésus qui sait vient s'opposer le « nous savons » de Nicodème. Il n'est pas dans une démarche personnelle, mais comme le psalmiste le dit, « Venez, prosternons-nous, courbons-nous, fléchissons le genou devant le Seigneur qui nous fait, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple qu'il fait paître, le troupeau que sa main conduit. » Là, on est dans du « nous justifié ». Ensemble, nous avons du sens. Mais nous avons du sens, nous, parce que chacun, au niveau du « jeu », nous pouvons naître de nouveau. Je vais m'arrêter là, mais je trouvais intéressant de relire ce passage de Nicodème et de lui donner, je dirais, toute l'amplitude que Jean a souhaité y donner pour nous montrer des contre-modèles, les pharisiens et ce qu'ils font. Et sachons, on ne parle pas que des pharisiens. Le Saint-Esprit ne parle pas, en nous donnant ce texte-là, que des pharisiens. Il parle de nous. Comment parfois nous pouvons être religieux? Combien nous pouvons passer à côté en mettant ce fonctionnement, ce rapport à Dieu dans le registre du religieux? Dieu te veut toi. Dieu me veut moi, dans une relation nouvelle qui naît de cette vie qu'il m'accorde. Seigneur, nous voulons te remercier parce que ta parole est belle, elle est formidable pour nous conduire dans des chemins nouveaux. Il y a, dans cette année qui vient, des choses à vivre avec toi, individuellement. Ouvre nos regards, comme tu l'as fait pour Nicodème, pour que nous nous débarrassions des écailles qui sont là sur nos pupilles et qui nous empêchent de voir, de discerner ce que tu veux accomplir dans nos vies. J'ai entendu dans une prière ce matin que tu étais loyal. Nous voulons aussi être loyal vis-à-vis de toi. Ne pas nous cacher derrière l'autre, mais oser, parce que dans ton sacrifice, tu l'as rendu possible, oser nous placer devant ton regard, qui n'est plus un regard de jugement, de condamnation, mais un regard d'amour, de compassion et de miséricorde pour chacun d'entre nous. Donne-nous, Seigneur, d'oser la vie avec toi, d'oser l'aventure avec l'Esprit Saint, d'oser la victoire dans les combats que nous avons à mener. C'est vraiment de cette manière-là que cette année et que ces temps devant nous seront bénis par toi. Amen.